6h04, vendredi 14 décembre. Bonne journée, bienvenue au 98.5 FM avec un ciel qui est nuageux. C'est autour de moins 6 degrés ce matin et on prévoit de la faible neige qui va commencer en mi-journée. Ça va devenir de la pluie au cours de l'après-midi et durant la phase transitoire, on a un risque également de pluie verglaçante avec des vents très modérés, très légers, là, 15 km/h maximum aujourd'hui, plus 3. Et pour ce qui est de la soirée, il y aura de la pluie, ça va cesser autour de minuit et ce sera nuageux par la suite avec un minimum de 1 degré. Donc, c'est un net réchauffement des températures. Quand vous comparez à hier, là, c'était assez froid, merci. Pour le week-end, un dégagement prévu samedi matin avec des vents qui sont modérés. Température stable près de 1 degré et dimanche, là aussi, belle journée avec donc beaucoup de soleil et température autour de moins 1 degré. Retour au travail lundi. Avec ciel couvert, probablement, là, la probabilité est à 60 % d'averses de neige et des températures, cependant, pas trop froides pour le début de la semaine prochaine. Avant de regarder les grands thèmes de l'actualité, je veux prendre quelques instants ce matin pour revenir sur cette nouvelle qu'on a vue circuler depuis hier au sujet de cette opération à l'hôpital Sainte-Justine pour reconstruire le crâne d'une fillette. Il fallait réduire le volume de la boîte crânienne, il fallait lui retirer de l'eau au cerveau. Vous avez sans doute vu les photos, les images. C'est impressionnant et il faut souligner, je pense, le travail exceptionnel des médecins de l'hôpital de Sainte-Justine, de toute l'équipe qui a entouré le docteur Alexander Veil, qui est le neurochirurgien pédiatrique et qui a réussi donc à faire cette reconstruction. On a compris que le médecin, l'urgentologue qui a reçu l'enfant, qui est né en Algérie, cet enfant-là, évidemment, lui, le médecin, n'avait jamais vu un enfant dans un tel état. Tout de suite, il a contacté le médecin, le spécialiste, et là, on s'est demandé quoi faire, parce que t'as beau drainer, c'était pas suffisant. Il y avait finalement peu d'options. Il fallait procéder à une opération majeure pour réduire la taille de son crâne. C'était la seule option possible, semble-t-il. Et donc, il a fallu intervenir pour pouvoir l'opérer. Et on a, comme une espèce de casse-tête, refait le crâne de cet enfant. C'est vraiment impressionnant. On critique souvent les médecins. On a toujours, évidemment, la question monétaire là, qui est en cause. Mais il faut avouer que c'est exceptionnel. Quand je dis à des amis médecins qui me disent « ben on fait notre travail », je comprends, mais non seulement vous sauvez des vies, mais en même temps, vous reconstruisez des vies, carrément. Et ça, il faut prendre le temps de le mentionner. Alors, bravo à toute l'équipe de l'hôpital Sainte-Justine. Bon, dans l'actualité ce matin, d'abord, revenons rapidement sur la fin, si vous voulez, de cette cavale à Strasbourg, alors que, finalement, l'auteur de la fusillade, Shérif Shekat, a été abattu par la police jeudi soir. La version donnée par les autorités, c'est qu'il est sorti, était probablement caché dans un espèce d'entrepôt. Évidemment, il était en cavale. Et il s'est retourné vers les policiers, aurait fait feu. Les policiers ont répliqué et, finalement, il a été abattu. Alors, ça, c'est le premier élément. Ça a été revendiqué officiellement par l'État islamique. Et comme disait Fabrice de Pierrebourg cette semaine, c'est un peu la façon de faire de l'État islamique, c'est-à-dire d'attendre que la personne soit morte ou soit arrêtée avant de revendiquer comme tel. Donc, il a été tué après une chasse de 21 heures. Trois policiers l'ont abattu, donc en riposte au tir, alors qu'ils étaient en train de vouloir l'interpeller. Également, je le disais donc, l'État islamique qui a revendiqué l'attentat dans la soirée et le communiqué qualifie l'auteur de l'attaque de soldats de l'État islamique. Et également, il y a d'autres personnes qui ont été interpellées en lien avec cette affaire. Et je parlais avec Fabrice hier, il va être avec nous un peu plus tard ce matin, mais un des éléments qui est à retenir, c'est que dans d'autres cas d'attaques terroristes, les gens qui étaient en fuite bénéficiaient du soutien de sympathisants, de gens de l'entourage, d'amis. Et ça permettait donc de faciliter une fuite comme celle-là. de pouvoir se cacher, de pouvoir se nourrir, si on est blessé, pouvoir être soigné. Il semble que dans le cas de Shekat, c'est plutôt un gars qui a agi en solitaire, ou en tout cas, personne n'est venu vraiment l'aider, en tout cas à première vue, dans cette espèce de cavale qui a duré quand même un bon nombre d'heures. Et je rappelle que le bilan est toujours de 3 morts et de 13 blessés. Parlons maintenant des 2 Canadiens qui sont toujours détenus en Chine. D'abord, c'est confirmé qu'ils sont détenus. Ça a été confirmé par les autorités chinoises, c'est confirmé par le Canada. Mais là, ce qu'on découvre, c'est que finalement, il n'y a pas de contact avec les détenus. Donc, je rappelle, c'est un ancien diplomate, Michael Kovrig, qui est détenu. C'est le premier cas dont on a entendu parler. Et également, l'homme d'affaires Michael Spavor, qui, lui, est un espèce de, disons, gestionnaire d'affaires touristiques, de voyages, entre la Chine et la Corée du Nord. Mais il y a plein de ressortissants canadiens qui se trouvent en Chine. Dans les 2 cas, la Chine dit que ce sont des menaces à la sécurité nationale. Et ce qui est assez étonnant, en tout cas, le chef de l'opposition, M. Andrew Scheer, a dit hier, écoutez, M. Trudeau devrait prendre le téléphone pour appeler son homologue, là. On n'est toujours pas en crise ou en guerre avec la Chine. C'est inacceptable. Tout ça découle, on le rappelle, de l'arrestation de l'héritière de l'empire Huawei, qui a été interceptée à la demande des Américains à Vancouver et qui est maintenant en libération avec caution. Et évidemment, la Chine dit officiellement que c'est pas lié, mais on sait très bien que dans les 2 cas, il y a une connexion très claire. Et le gouvernement qui a été incapable d'avoir contact, de pouvoir visiter les ressortissants en question. Il est 6h presque 12, Marc, les points chauds de ce début de journée. Très bien. Étude de ce matin, bilan énergétique du Québec. Et il y a des choses intéressantes. Il y a des nouvelles positives, puis il y a évidemment des tendances qu'on pouvait deviner et qui se confirment. D'abord, quand vous regardez le Québec par rapport aux États américains, par rapport aux autres provinces, 50 % de l'énergie utilisée provient de sources qui sont renouvelables. Bien sûr, principalement l'hydroélectricité. Et non seulement on produit proprement l'électricité, mais on a des surplus qui peuvent être exportés. Et le premier ministre Legault l'a répété assez souvent dans les derniers jours, il y a une volonté d'en vendre aux Ontariens, d'en vendre aux Américains. Ça, c'est la nouvelle positive. De l'autre, les Québécois continuent d'investir des montants records dans l'achat de gros véhicules, et c'est en croissance, des véhicules à essence et des maisons qui sont de plus en plus grosses, là. Et évidemment, ces deux tendances mettent en péril les efforts de réduire les gaz à effet de serre et surtout d'atteindre les cibles que le gouvernement s'est fixé. Et là, je vous donne quelques faits saillants de l'étude. Les émissions de gaz à effet de serre liées au secteur industriel ont diminué de 20 % entre 1990 et 2016. Ça, c'est le premier élément. Pour ce qui est des VUS, c'est en croissance. On parle sur une période d'à peu près 20 ans, un peu moins de 20 ans, une hausse de 246 %. Et les voitures ont baissé de 28 %. 78 % des Québécois disent utiliser principalement un véhicule privé pour aller travailler. Le covoiturage est à 10 % et la conduite en solo est à 68 %. Ça veut dire que chaque jour, peu de gens sont en voiture avec au moins une autre personne, un passager. Et probablement que si vous êtes en voiture ce matin, vous regardez autour de vous, si vous êtes peut-être coincé dans un bouchon, c'est plutôt rare qu'on va voir 2 personnes. Et là, je sais que y a plein de facteurs. Je gardais les courriels tantôt. Il y a la logistique. Quoique, il y a des applications qui existent maintenant qui permettent de mettre des gens en commun. Deux, il y a aussi le facteur humain. Je lisais pendant une des pauses des courriels que vous m'avez envoyés sur des expériences de covoiturage. Bon, des gens qui parlent tout le temps, des gens qui sont pas toujours agréables, des gens avec qui t'as pas d'atome crochu, à part du fait que tu t'en vas dans la même direction, puis que t'habites le même coin. Celui qui conduit à ta place, t'sais, qui te donne pratiquement des façons de faire en disant freine ici, tourne là, tu vas pas assez vite, tu vas trop vite, dépasse-le. Bon, tu sais, il y a du monde insupportable, on comprend, là, puis. Mais de façon globale, c'est sûr qu'il va falloir regarder l'approche. Est-ce qu'il faut valoriser le covoiturage, le transport en commun, mais ça a ses limites, on le sait, là. C'est un grand territoire, la région de Montréal, et contrairement à l'Europe, on n'a pas une base d'infrastructure forte en termes de train, en termes de métro. Donc, c'est clair que le covoiturage doit devenir une forme d'option dans le futur, mais on est loin de ça, d'après l'étude qui nous a été présentée. Autre sujet intéressant ce matin, l'UPAC. Je regardais ça hier, là. Et en gros, ce qu'on nous dit, c'est qu'on ne va pas commenter les enquêtes. Bon, c'est correct. On nous dit que tout va bien à l'UPAC, mais en même temps, on a plein de policiers pas expérimentés qui ont été recrutés, puis ça a l'air difficile de recruter des gens pour travailler à l'UPAC. L'UPAC a été secoué par une crise. Évidemment, les fuites, l'arrestation de Guy Ouellet, des litiges à l'interne, le départ de Robert Lafrenière et des enquêtes qui traînent, dans le sens que ça n'aboutit pas. Je peux comprendre le commissaire par intérim de ne pas vouloir commenter les enquêtes en cours, là, c'est assez logique. Mais je ne sais pas, il y a comme un malaise quand on regarde l'UPAC, qui a obtenu le statut là, d'un véritable corps policier. Tu te dis, mais coudonc, il avance-tu sur quelque chose? En tout cas, hier, la prestation n'était pas convaincante. On a bien des policiers pas expérimentés. Peut-être qu'on va encore espionner des journalistes. Peut-être que... Mais là, tu te dis, mais on s'en va vers quelle sorte d'opération? Et là, je ne veux pas m'éterniser sur les dossiers dont on parle beaucoup. Il y a le procès Normando, Marquis Vancôté qui traîne. Il y a toute l'enquête sur Bibeau-Charest, le projet Machuré. Je comprends que ça a été compliqué. Il y a des débats qui se sont poursuivis jusqu'en Cour suprême. Mais il me semble qu'on est dû à des résultats probants. Il y a un jugement en parlant de la Cour suprême qui a été rendu, et c'est pas rien. Je vous donne une situation. Vous êtes en couple, vous avez un ordinateur familial, donc en partage. Ce qui veut dire que vous l'utilisez, votre conjoint l'utilise. Et en octobre 2012, une femme découvre dans l'ordinateur, donc elle partage avec son conjoint, de la pornographie juvénile. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle appelle la police. Et la police a donc eu accès à l'ordinateur qui est partagé. Le monsieur, donc, a été arrêté par la police, c'est à Sudbury, en Ontario, pour possession de pornographie juvénile. Et là, il a contesté ça en disant que la police n'avait pas le droit de prendre le matériel dans l'ordinateur, donc n'avait pas accès. Et la police disait, ben, c'est un ordinateur partagé et sa conjointe a donné accès aux policiers. La Cour suprême tranche, ce n'est pas parce qu'on partage un ordinateur avec quelqu'un d'autre qu'on renonce à son droit à la vie privée. Au sujet du matériel qui est stocké. Ce qui fait que celui qui avait ses photos de pornographie impliquant des enfants a été acquitté et l'acquittement a été maintenu. Sa conjointe n'avait pas à donner accès aux policiers, donc à l'ordinateur, et les policiers non plus avaient pas, devaient prendre d'autres techniques d'enquête, aller chercher des mandats pour obtenir les photos. La Cour suprême reconnaît que c'est grave, bien sûr, la pornographie avec des enfants. Mais que ce droit-là, ce droit à la vie privée, même quand on a un ordinateur en partage, doit être absolument respecté. Revenons sur les propos de François Legault hier, ici à l'émission. Il y a deux, trois choses qui, en tout cas, ont fait le tour hier. Au sujet des fameuses commissions scolaires, M. Legault parlait hier de conseils des parents. Et là, on a tout un débat parce qu'en principe, les commissions scolaires, selon la promesse de la CAQ, doivent être remplacés par des centres administratifs. Il n'a jamais été question que ce soit des parents là, qui se mettent à gérer les commissions scolaires. Puis là, finalement, dans la journée, M. Legault, en fait, l'entourage a corrigé le tir. Mais pour ce qui est des signes religieux, là, j'ai compris que d'entrée de jeu, parce qu'on sait que ça va être contesté puis qu'on va perdre en Cour suprême, le projet de loi va déjà tenir compte de la clause dérogatoire. Donc, M. Legault nous a dit hier qu'il n'attendra pas une contestation devant les tribunaux. Il va agir en déposant le projet de loi. Et je comprends qu'il y aura une clause grand-père pour les enseignantes ou enseignants qui ont des signes religieux. Évidemment, on sait tous qu'on parle du hijab, du voile. Donc, si vous êtes prof, c'est assez clair que vous allez avoir le droit de garder votre hijab. Marquez que, comme me disait quelqu'un d'un syndicat, ça sera pas simple non plus. Tu sais, une enseignante a le droit, l'autre n'a pas le droit. Elle vient d'arriver, mais elle n'a pas le droit. Mais celle qui est là depuis 2 ans, bon, comment tu fais pour savoir? Tu sais, c'est... Moi, j'ai toujours dit, je le répète, et je sais que c'est pas la position la plus populaire au Québec, mais c'est pas grave, c'est ce que je pense. Que c'est, dans le cas de l'enseignement, c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée. Je pense pas que ça soit... ça s'applique. Mais bon, et Legault a raison. Il a reçu un mandat majoritaire et il procède. Il respecte ses engagements électoraux. C'est ce qu'il avait dit qu'il ferait et c'est ce qu'il fait. Parlons aussi du président Trump. Hey, c'est vraiment toute une saga. Quand tu penses à ça, là, c'est assez... Bon, hier, on revient sur son avocat et là, Trump nous donne une autre version. L'avocat qui était son intermédiaire pour acheter le silence de 2 anciennes maîtresses. Il dit, dans le fond, c'est pas mon problème, c'est le problème de l'avocat, puis c'est lui qui connaît les lois, puis on le paye pour nous conseiller. Puis du moins, j'ai rien à me reprocher dans ça. Ça, c'est un. Également, il y aurait eu des formes de contributions illégales. On connaît l'histoire. Le magazine à potin du National Enquirer qui a acheté la version d'une des maîtresses. Et ça, c'est un coup classique. Là. Tu l'achètes, t'as payé, elle n'a pas le droit de parler à personne, puis tu publies jamais. Donc, l'histoire ne sort pas, t'étouffes l'affaire. Et c'est considéré comme une contribution politique. Là, il cherche un chef de cabinet à la Maison-Blanche. Il n'en trouve pas. Il est rendu à penser que le gendre va prendre la place. Jared. Et de plus en plus, il y a des rumeurs qui disent que l'enquête du commissaire Mueller avance assez rapidement. Et hier, le Sénat a voté une motion pour condamner l'Arabie saoudite et la guerre, donc, au Yémen. Et les chiffres sont absolument épouvantables concernant le Yémen. Il y a 44 mois de guerre civile et 85 000 enfants qui sont morts de malnutrition. 85 000. Et là, il y a une pression de la communauté internationale. Et enfin, et Trump, lui, est d'accord pour soutenir l'intervention au Yémen. Donc, ce sont des échecs quand même assez importants pour le président depuis maintenant 24 heures. Il est 6 heures, presque 23 minutes. La 13, Marc.